Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai sous le coude depuis longtemps. On veut les recevoir, évidemment, on veut les recevoir.
On le dit à chaque émission.
On le dit à chaque émission, on veut les recevoir. Et ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on va finir par les recevoir. C'est, voilà, c'est une histoire de timing, tout, c'est une question de temps. Mais c'est pas grave, parce qu'au contraire, en réalité, c'est plutôt pas si mal qu'ils soient pas là, parce qu'on va faire une rétrospective... et on n'aurait pas eu le temps en fait de tout faire. Et donc là, on va commencer par faire une rétrospective de toutes les dingueries qui se sont produites sur les quelques derniers mois. Parce qu'on a parlé un peu d'IA générative vis-à-vis de la vidéo et tout, mais on a un peu fait une pause en réalité sur tout ce qui concerne les concurrents de ChatGPT open source. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et de rien d'autre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise très particulière créée par trois Français. Un ancien chercheur de DeepMind et deux qui étaient chez Meta. Cette entreprise, qui n'existait pas il y a à peine 8 mois, a eu le temps, dans cet intervalle, de faire trembler toute l'industrie de l'IA en publiant des modèles alternatifs à ChatGPT qui explosent toute la concurrence, être valorisé à presque 2 milliards de dollars, le tout sans aucune communication. Ni vidéo promotionnelle déceptive. Rien. Uniquement. Ce qui est la meilleure communication. Ce que fait cette boîte me hype tellement que je vais quasiment tous les jours sur Twitter exclusivement pour vérifier qu'ils n'ont pas fait des nouvelles annonces. Et c'est véridique.
C'est vrai ?
Oui. Laissez-moi vous expliquer à quel point nos petits Français ont explosé le game et comment vous pourriez aussi en profiter. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de regarder un classement, et pas n'importe quel classement. C'est un tableau des meilleures intelligences artificielles qui sont concurrentes à ChatGPT. Vous allez voir, il y a plein de trucs très intéressants dans ce tableau. Par exemple, on dirait que ChatGPT régresse entre plusieurs versions. Sinon, on peut voir qu'il y a aussi des scores qui sont incohérents, qui ne sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Et surtout, il y a ces petites lignes jaunes. Open Hermes Mistral, machin. Mixtral Instruct. Que des noms qui évoquent le vent, finalement. Mmh. Elles ne payent pas de mine. On dirait même comme ça qu'elles ne sont pas si bien classées. Mais ce serait passé à côté de la révolution, et je pèse mes mots, qui se cache derrière. Et qui explique que toute la sphère IA de Twitter... ne parle que d'eux depuis novembre. Pour bien comprendre ça, il va falloir d'abord que j'explique quelques trucs. Déjà, il faut réaliser que comparer des LLM comme ChatGPT, et donc les classer, c'est assez galère en fait. Il y a pas mal de manières de mesurer la performance d'un LLM, mais pour faire court, c'est pas simple. Vraiment pas simple. Il y a des benchmarks qui sont en gros... des listes de questions qu'on peut poser à un LLM pour vérifier ses capacités. C'est un peu comme une interrogation écrite, automatisée, donc où on teste différentes matières, en fait, de la logique, des maths, de la culture générale. Je vous ai montré quelques exemples. C'est vraiment ce que vous pourriez faire à l'école, en fait, comme un QCM. Je ne sais pas si tu as des exemples, Thilo. Donc là, par exemple, petite question de... philosophie.
Ah ouais, ça...
Ouais, non, mais c'est vraiment précis. C'est vraiment précis. On demande des questions sur la philosophie de Kant et il faut remplacer avec le bon terme.
What the fuck?
Ah ouais, c'est vraiment précis. Autre question...
Et attends, tu sais répondre à ça, toi?
Non. Okay. Autre question, là, pour le coup, c'est des maths. Okay. Et là, c'est un peu plus simple, c'est de faire une racine carrée. Mm-hmm. Et globalement, c'est un peu toujours ce même genre de pattern, à savoir... arriver à mesurer en philo, en socio, en logique, en biais de raisonnement aussi. Enfin bref, il y a toute une flopée de datasets qui ont été conçus pour mesurer si un LLM performe mieux qu'un autre.
On peut appeler ça des benchmarks ?
C'est exactement, okay. Ce sont des benchmarks. Le problème, c'est que c'est déjà arrivé que des modèles cartonnent en théorie, avec des scores de fou, mais en fait, soient pas dingues. ça arrive assez régulièrement. Par exemple, c'est potentiellement le cas des modèles de Google, genre Gemini, qui sont sortis il y a à peine 2 semaines. On dirait que, en fait, ils ont tout fait pour maximiser leur score de MMLU, donc qui est un benchmark très prisé et très regardé. Sauf que, apparemment, quand tu l'utilises, c'est dur d'expliquer pourquoi, mais tu sens que c'est quand même moins bon que ChatGPT-4. Alors que pourtant, sur certains benchmarks, ça devrait pas. C'est-à-dire que le score théorique dirait que non. Mais c'est bizarre, il y a un truc au feeling où tu sens que c'est quand même pas exactement pareil. Et ça peut parfois s'expliquer parce que l'interro a fuité, en gros, dans le dataset d'entraînement. En gros, c'est comme si les réponses apparaissaient dans les centaines de gigas de texte que le modèle a appris. Et du coup, c'est littéralement l'équivalent d'avoir les réponses d'une interro qui fuite avant l'épreuve. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire si le modèle il répond juste parce qu'il a, il a une bonne culture générale ou si il a vu le test, en fait.
Ouais, il overfit, quoi.
Exactement. C'est assez ouf, mais même si les benchmarks peuvent être intéressants, alors on apprend des choses quand même sur différentes capacités dans différents domaines. Par exemple, en code, il y a Human Eval qui est très prisé pour savoir à quel point t'es fort à créer du code Python qui marche. Ça reste intéressant. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux actuellement que le feeling des humains pour savoir si un modèle est vraiment bon. Et un des meilleurs benchmarks, du coup, c'est l'avis des gens. Et surtout, est-ce que tel ou tel modèle est utilisé vraiment en entreprise ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui avaient des scores de malades, qui ont hypé tout Twitter, etc., mais qu'actuellement, personne n'utilise vraiment dans des boîtes, parce que face à la réalité, en gros, ils sont pas ouf. Et inversement, t'as des modèles qui ont pas forcément les meilleures notes, mais qui sont utilisés partout, parce que dans des cas précis réels, les entreprises jugent que ça marche. Donc en fait, ça peut les deux seules manières de savoir si les modèles sont vraiment cool, c'est est-ce qu'ils sont utilisés dans des boîtes, à terme, sur du long cours, ou est-ce que leurs réponses satisfont les humains. Du coup, pour faire des classements, comment on fait ? Eh bien, en fait, on peut faire un système de vote. C'est comme aux échecs, on peut faire un ELO, donc un système de points, pour comparer des réponses différentes de modèles. Et en fait, on y revient à ce tableau. C'est l'un des classements de ce type les plus connus. Ce qu'on voit, Arena ELO, en réalité, ça décrit toutes les batailles qui ont été effectuées sur une audience cible entre différentes réponses.
Ok.
Donc en gros, on fait des battles, on montre une question, 2 réponses ou 3 réponses et il faut voter. Et petit à petit, c'est vraiment comme des matchs d'échecs, c'est comme un elo quoi. Et ça joue sur ton ranking. Actuellement, c'est un des meilleurs moyens de savoir si un modèle est particulièrement capable ou pas. Et là, il faut vous dire qu'on voit vraiment le top du top. Ok, ça c'est le très très haut du panier. C'est-à-dire que cette liste continue en dessous à l'infini.
Ok.
Donc c'est pour ça que même les petites lignes jaunes, on a l'impression qu'elles sont en bas. Non, non, non. C'est vraiment le podium du podium des tout meilleurs modèles dispo là au moment où on tourne cette émission qui ont été testés sur le site en question qui est très populaire. On peut voir que pour l'instant, les tout meilleurs modèles en haut, ils sont tous propriétaires. Donc, on reconnaît les GPT-4, que tout le monde connaît, évidemment. Toujours indétrôné, tout en haut. Ce sont les différentes donc, variations. Enfin, on voit qu'il y a plusieurs lignes, parce que c'est des variations différentes de mise à jour d'OpenAI. Donc, 0.3.14, par exemple, ça veut dire que c'est la version de GPT-4 de mars 2023.
Ok.
Dans l'interface web, on ne nous laisse pas la possibilité de l'échanger, mais via l'API, on peut. Et donc, c'est un modèle propriétaire, comme on le voit sur la dernière colonne. C'est-à-dire qu'à part OpenAI et Microsoft, personne n'a vraiment la main dessus physiquement, quoi. À part à distance, via l'API. Ensuite, on peut voir Claude d'Anthropic. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été monté par d'anciens salariés de OpenAI, qui n'est pas méga loin derrière, actuellement.
Peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Anthropic.
C'est clair, il y a une belle histoire autour de ça. Globalement, c'est ceux qui sont le moins loin à l'heure actuelle de GPT-4. Puis, quelques versions de GPT-3.5 qui, après des mises à jour successives, restent en fait toujours très compétitifs actuellement, surtout pour le prix. Et plus bas, on aperçoit Google avec le Gemini Pro, leur donc nouveau modèle annoncé il y a 2 semaines à peine, dont on va reparler un peu. Tout ça donc, c'est ce qui est propriétaire. Okay ? Après, pour ce qui nous intéresse le plus, nous, il y a les modèles ouverts. Ils sont en général plus petits. On va expliquer ce que ça veut dire juste après. Ils demandent donc moins de puissance de calcul. On peut les télécharger gratuitement, les faire tourner en local et les réentraîner, ce qui est un des trucs les plus intéressants, sur nos propres données pour les rendre vraiment très, 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 très forts. Et alors, jusqu'à il y a quelques semaines, il y avait en gros qu'une seule alternative sérieuse à ChatGPT et ses variations, dont on avait déjà parlé, c'est Llama 2. Plus précisément, des versions améliorées, donc fine-tunées de Llama 2, le modèle de Facebook, qui finissent d'optimiser au max du max le travail qu'a fait faire dans son modèle dit de fondation.
Et qui sont assez précurseurs sur le fait de rendre open source un LLM. C'est le premier à avoir fait ça.
Carrément.
En tout cas, qui soit visible. Il y en a d'autres, mais c'est le premier.
C'est effectivement eux qui ont lancé la grosse vague, dont d'une certaine manière, nos héros du jour sont les héritiers. Sauf que, vous avez vu que, donc, je vous ai dit, il y a quelques semaines, il n'y avait quasiment que Facebook avec Llama. Mais il y a quelques semaines, il y a 2 mois exactement, il y a des petites lignes jaunes qui se sont ajoutées au tableau. Ça s'est passé comment ? Mistral, le compte Mistral qui n'était suivi alors par quasiment personne, a publié un tweet. Le tweet, vous allez le voir s'afficher sous vos yeux.
J'adore.
C'est pas celui-là. Non, c'est celui d'avant. Tout va bien.
Tranquille, on a le temps.
Bien sûr. Le tweet qu'ils ont affiché, attention, le suspense monte, est à son comble.
Un tweet de la société Mistral.
Exactement. Il publie ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un lien magnet. Donc c'est tout simplement un torrent qu'on peut télécharger avec, BitTorrent, quoi, comme on téléchargerait un film piraté ou alors plein d'autres trucs open source. C'est aussi un bon moyen de partager des OS, par exemple, ou des trucs comme ça. Il publie ça. Pas d'explication, rien. Pas de contexte, pas de vidéo promo, pas de billet de blog, rien. Juste ce lien. Et quand on clique dessus, on découvre un modèle à 7 milliards de paramètres. Et là, il faut qu'on explique un truc très important, parce que, je vous l'ai dit, on peut avoir l'impression que ces lignes jaunes, elles sont en bas du classement. Mais en fait, ça, c'est si tu ne prends pas en compte la taille des modèles. En gros, on peut se figurer que c'est comme en boxe, il y a différentes catégories. C'est-à-dire qu'il y a les poids lourds, il y a les moyens et il y a les poids légers. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose de se battre avec des modèles qui font 200 milliards de paramètres ou avec des modèles qui font 70 milliards ou 7 milliards. La différence, c'est, ce nombre de milliards décrit en fait la taille des poids. Donc concrètement, c'est l'énorme fichier qui contient le réseau neuronal qui permet de faire les inférences, donc de créer les messages, d'écrire sous vos yeux les tokens. Et donc, plus un modèle est gros, plus il demande de la puissance de calcul, d'avoir des serveurs gigantesques avec des cartes graphiques de NVIDIA qui coûtent 25 000 euros pièce, qu'il faut cumuler même, souvent elles ne suffisent pas à elles-mêmes, qu'on cumule pour à la fin arriver à héberger des modèles qui vont faire du coup 100 gigas par exemple ou 200 gigas, ce qui en termes de mémoire vive de cartes graphiques, c'est beaucoup, il faut vraiment beaucoup d'argent pour financer ce genre de serveur. Et c'est en partie ce qui explique qu'ils sont uniquement sur des data centers, ce genre de très très gros poids lourds. Souvent, on ne sait pas exactement en plus quelles sont la taille des modèles propriétaires. On pense que, par exemple, à une époque, on pensait que les GPT-3 et compagnie faisaient à peu près 130 milliards de paramètres, si je ne dis pas de bêtises. On imagine que OpenAI a amélioré tout ça et réduit cette taille, et peut-être que GPT-3.5 Turbo est plus petit, mais globalement, c'est pas trop. GPT-4, c'est sûr que c'est énorme. Et c'est même une architecture où c'est tellement gros qu'ils doivent le séparer en plusieurs poids lourds, en fait. C'est plus du poids lourd. En réalité, il y a probablement 8 poids lourds qui font peut-être chacun plus de 100 milliards de paramètres et qui travaillent ensemble. Voilà. Autant dire que héberger sur ça, vous-même,
sur ta propre machine locale,
un de vos appareils, c'est mort. Dites-vous que c'est juste mort. C'est pour ça que sont apparus des modèles plus petits. Par exemple, l'IAMA, quand ils ont sorti leur modèle, ils les ont sortis souvent en 3 versions, ou voire 4. Il y a le plus gros, il fait 70 milliards de paramètres. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le plus proche de ce qu'on a qui ressemble à une taille de modèle d'OpenAI ou d'Anthropic. Et ça, bah, pour le faire tourner, il faut en gros minimum 2 cartes graphiques des 4080 Ti. Si tu as deux 4080 Ti, donc qui ont chacune 24 gigas de mémoire vive, tu peux espérer faire tourner une version de ces gros modèles de l'IAMA, donc de Facebook, les 70 milliards. Et encore, tu dois en fait passer par un processus de quantisation, comme on dit, donc tu les restreins. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Par contre, actuellement, c'était un des moyens d'avoir des modèles quasiment équivalents à GPT 3.5. Donc c'était déjà cool, c'était déjà cool. Ils ont sorti également des modèles de 30 milliards de paramètres, de 13 milliards de paramètres et de 7 milliards de paramètres. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un pattern, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on divise par deux. Et vous pouvez vous dire à quoi ça sert. Pourquoi ils ne mettent pas plutôt toute leur énergie, tout leur argent à entraîner un unique modèle qui soit plus fort que tous les autres? Et bien, en gros, ça a un intérêt parce que différents modèles, donc différentes tailles de modèles, sont utiles pour différents trucs. Tu peux avoir besoin d'un très très gros modèle et donc d'une très bonne compréhension, d'une très grande culture générale pour effectuer certaines actions. En faisant des compromis du coup sur le coût par mot, le coût par token et le fait d'avoir des très grosses infrastructures. Mais parfois, tu peux avoir des besoins plus restreints que tu es prêt à échanger contre des performances. Donc par exemple, si tu veux faire tourner un modèle sur ton Mac mini qui a 16 gigas de RAM, eh ben, tu es très content en fait qu'il y ait des modèles 13 milliards ou 7 milliards qui tiennent en gros en 4, 5, 6, 10 gigas et que tu peux faire tourner en local sur ta machine. Donc ça a un vrai intérêt d'avoir des modèles qui font des tailles différentes et qui donc vont avoir des usages et des trade-offs différents. Ça, c'est pour vous dépeindre le tableau. Actuellement, enfin pendant très très longtemps, avec un modèle de 7 milliards de paramètres, tu faisais quasiment rien. En gros, c'est intéressant pour faire... C'est pas exact. Tu fais pas rien.
Prototyper, c'est... Enfin, pour essayer et de...
Tu peux jouer avec.
Pour jouer avec, ouais.
Pour faire des résumés, ça peut marcher un petit peu. Ou pour essayer de, je sais pas moi, trouver des synonymes à un mot. Enfin voilà, des choses qui jouent avec le langage, mais à un bas niveau, on va dire. C'est un élève de CM2, tu peux dire ça. Et pour ça, c'était intéressant, mais globalement, très limité. 13 milliards, ça commence à être un peu plus intelligent. Peut-être qu'on pourrait dire quelqu'un, un élève de 6e, tu vois, ou de 5e. Et il fallait vraiment aller aux 30, 70 milliards pour avoir à peu près une conversation cohérente et des messages relativement longs, raconter des histoires qui sont pas sans queue ni tête, etc. Et on pourrait dire que c'est un élève de 3e, par exemple. Mistral. Leur modèle là, qu'ils ont annoncé dans un tweet sans décorum, c'est un modèle de 7 milliards de paramètres. Donc c'est le plus petit qu'on voit être publié.
Il est dans le top 10.
Sauf que en fait, il est complètement dingue. Est complètement dingue au point que quand ils l'ont sorti, les gens y croyaient à moitié. Tu vois, on pensait qu'il y avait des bugs quand on voyait les benchmarks. On s'est dit non mais c'est pas possible. Ce que je vous expliquais, ils l'ont entraîné sur des benchmarks, ça n'a pas de sens. On ne devrait pas pouvoir obtenir ce genre de résultat avec un modèle qui tient dans un fichier de 5 gigas. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, si. C'est-à-dire que leur modèle de 7 milliards, surtout quand il a été fine-tuné, c'est un peu les noms, les variations, les Open Hermes, tout ça que vous voyez dans le tableau, sont des versions améliorées par la communauté, qui ont poussé ce modèle à un niveau où il explose évidemment tous les 13 milliards. Donc ça, c'est même, ils sont même pas dans la course. Mais également, là, on peut voir, tu vois, il y a l'IAMA 2, 70 milliards, tout en bas,
ouais,
qui se fait absolument rétamer par un modèle 10 fois plus petit que lui. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, la meilleure déclinaison de Mistral, c'est en 7 milliards de paramètres, c'est Starling LM 7B Alpha.
OK.
Elle explose des GPT 3.5 Turbo,
okay,
des...
Ouais.
PPLX 70 milliards, donc ça, 70B, ça veut dire 70 donc, milliards.
C'est la ligne Starlink qu'il faut regarder.
Exactement. L'IAMA 2, 70 milliards. C'est que des modèles qui sont les meilleurs modèles en 70 milliards de paramètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
ouais, non, mais c'est fou.
La prouesse que c'est. Et c'est ça qui a expliqué qu'il y a deux mois, il y a eu une sorte de raz-de-marée où tout le monde s'est mis à jouer avec ce lien magnet, à le télécharger, à le fine-tuner, essayer de l'améliorer et à voir où est-ce qu'on pouvait le pousser au maximum du maximum.
Et d'ailleurs, tous les gens qui s'amusent à justement fine-tuner un peu des modèles comme ça, ils ne l'ont plus fait sur l'IAMA 2 à ce partir-là, ils l'ont pris Mistral. Et je sais qu'on a vu des zéphyrs apparaître sur des gens de Hugging Face qui font un travail incroyable et même, je pense, qu'ils contribuent... aussi à améliorer le modèle Mistral, j'imagine qu'ils discutent.
C'est aussi un travail d'équipe.
Oh ouais.
On va dire que tous ces gens qui s'amusent sont sur les épaules de géants, donc de Mistral en gros, mais derrière font les 10 derniers mètres en gros, pour tirer tout le jus que contient leur nouveau modèle de fondation, donc comme on l'appelle, merci Tiffany, je m'as rappelé, je ne trouvais plus le nom. Si on regarde le classement, on peut du coup voir que ce modèle-là, surtout dans ses versions fine-tunées, est quasiment équivalent à certaines versions de GPT 3.5. Mm-hmm. Donc, qui lui fait probablement pas 70 milliards, mais encore le double.
Plus. Mm-hmm.
Y a quand même une petite subtilité à capter, c'est que ça reste un modèle petit. Et donc, tu peux avoir des réponses ultra qualitatives, mais on pense, c'est possible, que typiquement au niveau de la quantité d'informations que le modèle connaît, dans sa culture, tu vois, la quantité d'infos d'Internet qu'il a pu stocker dans sa mémoire, on pense qu'il va être peut-être un peu plus limité dans certains cas. Et il peut avoir un risque d'halluciner un peu plus souvent, genre d'inventer des trucs qui ne sont pas dans son dataset. C'est peut-être une toute petite nuance qu'on peut donner au fait d'avoir un modèle de 7 milliards. Mais à part ça, ça veut dire que ce truc-là, vous pouvez le faire tourner sur certains iPhones, ou plus, de manière plus réaliste sur votre Mac, sans aucun problème. Ça va tourner à la vitesse de l'éclair, parce que c'est vraiment tout petit, donc c'est bien plus rapide que vous ne pourriez le lire. Et ça veut dire que des développeurs même d'applications peuvent maintenant l'intégrer en back-end, en local complètement sans avoir la moindre connexion Internet, avoir un quasi GPT 3.5.
Et je sais qu'aussi, il y a l'aspect où il le livre... sans censure entre guillemets, il n'y a pas un pré-prompt de 15 km pour dire qu'il faut être bienveillant et gentil. C'est à toi de le faire si tu as envie de le faire. D'ailleurs, ils le mettent quand ils mettent le lien, ils expliquent un peu quelques jours après avoir posté un lien, souvent ils font un article de blog sur en fait on a posté ça, et ils disent attention, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais si vous voulez qu'ils disent dinguerie, ils peuvent répondre des dingueries quoi.
Et ça, c'est hyper important d'en parler.
Ah, parce que
non, justement, c'est parfait, c'est hyper important d'en parler. Les bénéfices d'un modèle open source, outre tous les avantages qu'on lui a donnés, c'est effectivement que, en général, ils les ont pas encore lobotomisés.
Ah, de fou.
Pour faire simple. Parce que, comme vous l'avez vu sur les benchmarks, régulièrement, des modèles propriétaires baissent en performance. Ça peut pas être paradoxal. Normalement, une boîte, elle améliore ses produits. Mais sauf que, dans le cas de modèles propriétaires, ce qui se produit souvent, c'est que, pour rendre l'IA safe, c'est-à-dire pour éviter qu'elle vienne titiller la sensibilité de quiconque.
Politiquement correct.
Exactement. On a besoin de les contraindre, pour ouais. qu'elles répondent « Je suis une IA, je ne peux pas faire de mal », des trucs comme ça.
Surtout quand ils sont grand public, en fait. Surtout quand ils sont grand public. Mistral
exactement.
N'a pas d'interface grand public.
Ouais, non, c'est clair.
Ils ont lancé la plateforme, mais bref.
Et du coup, il faut bien comprendre que ce n'est pas anodin. Ouais. Tout le monde ne réalise pas forcément ça, mais... À chaque fois qu'on contraint un modèle à être safe, on le rend moins performant. C'est une constante. C'est-à-dire okay. qu'on observe absolument partout, l'un et l'autre sont un trade-off, tu vois, c'est toujours une balance. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non mais nous les développeurs, à la limite pour ton interface web, tu fais ce que tu veux, mais nous les développeurs, donnez-nous les meilleurs modèles en fait, des modèles absolument pas contraints. Et après, on se débrouille nous-mêmes pour savoir si oui ou non on veut bloquer tel ou tel type de message, de questions, de discours, etc. » Et donc, c'est ce que Mistral a compris, leur modèle n'est pas lobotomisé. Et donc, il y a énormément de gens qui, sans cette partie filtrage safe, obtiennent les modèles les plus performants du monde et parviennent comme ça à rivaliser avec OpenAI. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai pas parlé d'une petite ligne.
Ouais.
Il en manque une, là. Il y a une ligne très haut.
Très haut en jaune.
Très très haut. Et encore, on pourrait se dire, ouais, mais elle n'est pas tout en haut. C'est pas, ils n'ont pas fait aussi bien que GPT-4. Là encore, ce serait passer à côté de pourquoi cette ligne est la deuxième révolution. Donc ça, c'est la première révolution qu'ils ont lâchée comme une bombe.
C'était en fin septembre, début octobre.
C'est ça, il y a 2 mois. Ça a à peine 10 jours. Et c'est une autre forme de révolution. C'est-à-dire que nous, on était là à guetter, à attendre. Toujours la même chose. Hein.
Petit lien magnet. Si on va sur leur compte, il n'y a que ça. Ouais. Il y a des liens magnets. Deux liens magnets, et c'est tout.
Pas plus de communication. Là où deux jours plus tôt, il y a Google qui a fait en fanfare et en trompe des vidéos produites marketing,
etc. C'est sûr,
etc.
Il faut des économies. Hein.
Non, mais surtout que les vidéos de Google, en réalité... En fait, tu peux pas accéder au modèle derrière. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oui. Ouais, on arrive, on a fait aussi bien que GPT-4. Mais pas maintenant, mais bientôt, t'inquiète, on fera aussi bien. Plus, ils se sont fait accuser très rapidement d'avoir faké en réalité les interactions de la vidéo et qu'elle a été en gros majoritairement fait en post-prod, ce qu'ils ont avoué après dans un blog post.
On peut y accéder à Gemini? Parce que moi, je suis retenu sur qu'on pouvait toujours pas, mais si, depuis.
Tu peux accéder à certaines versions, mais pas Gemini Ultra.
D'accord.
Qui est censé être leur compétiteur à GPT-4. Bon bref, tout ça pour dire, Mistral, ils font toujours l'inverse, il y a 10 jours, et ils publient simplement un nouveau magnet. Et alors là, c'est Noël, tu vois, donc tu ouvres le magnet et tu regardes ce qu'il y a dedans. Et il y a un modèle qui s'appelle Mistral 7B x 8. Alors, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que Tiffany, tu as une théorie sur ce que veut dire ce nom cryptique? Ça s'appelle Mistral 7B x 8.
Genre, ils ont mixé plusieurs IA entre elles?
Exactement. En gros, on s'attendait à ce qu'ils sortent peut-être des meilleures versions, peut-être une version 13 milliards. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Parce que probablement qu'ils savent beaucoup mieux que nous, en réalité, ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant et utile. Ce qu'ils ont sorti, c'est un modèle dit de MOE. Donc, ça veut dire Mixture of Experts. Donc, un mélange d'experts. Alors, soit on ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le détail de techniquement comment ça fonctionne, mais dites-vous que c'est une architecture différente pour créer un modèle de langage. C'est probablement, on est quasiment sûr, que OpenAI a utilisé cette architecture sur GPT-4, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau. Et le concept simple, c'est que plutôt que d'entraîner un seul modèle, ce que tu fais, c'est que tu entraînes différents modèles, mais qui vont se spécialiser dans des domaines différents. Pour faire très simplifié et schématique...
Un cluster de modèles.
C'est un peu ça. Pour faire simplifié et schématique, c'est un peu comme si tu entraînais un modèle à être super bon en maths, un autre à être super bon en code, un autre à être super bon en littérature et en philosophie. Dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce que ça permet de faire, concrètement, c'est d'entraîner un modèle, du coup, avec différentes branches. Et en gros, c'est comme un Cerbère à 8 têtes... mais où, lors de la génération, donc pour chaque nouveau token généré, il y a seulement 2 de ces têtes qui sont utilisées.
Okay.
Là où c'est intéressant, c'est que, en gros, pour simplifier, tu bénéficies de la taille d'un modèle qui fait 8 x 7 sans en payer le coût au niveau du hardware.
Okay.
Donc, pour le coût d'un 7 plus 7, donc pour le coût de 14 milliards de paramètres, tu bénéficies en quelque sorte de 8 x 7.
Ok. Il est juste plus gros en taille, mais il ne nécessite pas plus de puissance de calcul, c'est ça?
Exactement.
Okay.
En gros, non, mais c'est exactement. Je ne vais pas reformuler. C'est exactement ça. Leur Mistral, donc, c'est un mélange d'experts de leur premier Mistral. On se doute qu'ils sont partis de leur première base pour. Le lui faire atteindre la stratosphère, pas forcément seulement en termes de performance. Alors, vous l'avez vu, il se débrouille extrêmement bien. Donc, il est en gros, on peut considérer qu'il est à peu près du niveau de GPT-3.5, enfin, même, peut-être même un peu au-dessus dans les tests. Mais c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est que tu peux le faire tourner sur un Mac M3 Ultra qui a 64 Go de RAM. Donc, tu prends un Mac qui se vend chez Apple pour 2-3 000 balles. Et tu peux faire tourner littéralement en local un concurrent de ChatGPT 3.5 qui est probablement même un peu meilleur en réalité. C'est fou. C'est la première fois de l'histoire que c'est possible. Et le deuxième truc de fou, c'est le niveau de performance. Parce que pour l'instant, on a juste parlé de l'intelligence, mais c'est pas la seule chose qui compte. Il y a la vitesse des tokens aussi qui importe. C'est ouais. À quel point
la
tu vas.
La rapidité de réponse.
Exactement. À quel point tu vas vite à répondre. Et eux, non seulement leur modèle est giga smart, mais surtout, il peut répondre à énormément d'utilisateurs en même temps. Et il peut générer des tokens à la vitesse de l'éclair. Donc, en gros, ça veut dire que sur ton Mac qui a 64 gigas de RAM, tu peux débiter du token comme jamais. Et pour faire le parallèle plus réaliste de t'es une entreprise et tu veux déployer ta propre version de Mistral, et j'ai discuté avec pas mal de boîtes qui sont totalement en train de faire ça actuellement.
Ah ouais.
Ils sont en train de prendre Mistral, de les fine-tuner sur leur version et de déployer ça sur leur serveur.
Et je pense que même Mistral le fait potentiellement pour des clients et s'y lancer.
Exactement. C'est probablement un de leurs business models d'ailleurs. Pour ces entreprises-là, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher que ce que ça ne coûte à OpenAI de faire la même chose.
Ouais.
Pour faire très, très court.
Et ce qui est fou, c'est qu'avec ça, là, on a un ChatGPT qui est meilleur que ChatGPT à sa sortie, si on reprend il y a un an à peu près. On peut le fine-tuner avec ses propres documents et habitudes d'une boîte en local, en tout cas pas exposé à des fuites sur OpenAI, etc. Pour qui tourne sur une machine qui est une machine classique, quoi, qui coûte pas non plus un bras, quoi. Et qui est disponible hors ligne si on le veut, enfin qui est disponible pour tous les collaborateurs de la boîte et tout. Enfin, c'est sûr que il y a 15 applications et que de toute façon les modèles open source, c'est ce qui va aller le plus dans les entreprises qui veulent vraiment un truc spécialisé pour une tâche précise, quoi. Bref, c'est fou.
Je pense que vous réalisez du coup que ma hype n'est pas déplacée. J'oserais même dire que là où certains parlent de bulles, en mode c'est une survalorisation, 2 milliards, c'est beaucoup trop, machin. Je suis pas si sûr. Parce qu'ils ne communiquent pas cette valorisation, elle correspond au potentiel que les gens voient dans l'avenir d'une boîte qui, coup sur coup, a juste explosé l'état de l'art, en fait. Surtout que, pour l'instant, je vous ai parlé de deux petites révolutions. Il y en a probablement encore à venir, en réalité. Et comment on le sait ? C'est parce qu'ils ont annoncé récemment leur cloud, donc en gros la version hébergée, si tu n'as pas les machines disponibles ou alors que tu veux servir beaucoup d'utilisateurs, leur version hébergée de leur modèle qui s'appelle la plateforme. J'y ai eu accès et concrètement...
Cool.
Ouais, c'est très cool. du coup, j'y ai eu accès et c'est en gros une version de l'API d'OpenAI. Il y a même une rétrocompatibilité, c'est-à-dire que si tu as développé un service pour OpenAI, c'est les mêmes endpoints, tout marche pareil. T'as juste à changer l'URL et tout va bien. Malin.
D'ailleurs, dans une doc, ils ont mis, pour citer OpenAI, ils disent ça marche comme notre fameux concurrent. Genre, ils le citent pas, mais je trouvais la formulation incroyable.
D'accord.
Okay.
Et du coup, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'il y a effectivement les deux modèles qu'ils ont déjà publiés, mais il y a un troisième modèle. Donc, ces deux modèles-là, ils les appellent Mistral Small. Attendez.
Je crois que c'est Mistral Medium.
Non, il y a Mistral Tiny, Mistral Small. Donc déjà, le Mistral Small pour eux, c'est la petite ligne jaune tout en haut. Hein.
Ok.
Voilà. Et il y a un petit Mistral Medium qui est en alpha. Celui-là n'a pas été encore publié. Bon, c'est pas exactement d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'un jour, ils vont peut-être un jour arrêter de publier des modèles. On espère que non, s'il vous plaît, non. Continuez. mais ce Mistral Medium, tu peux déjà essayer des inférences dessus.
Ouais. Donc y accéder via une API.
Exactement. Et en gros, ça promet. Ça promet d'être encore un sacré morceau. Il est probablement encore plus gros et au niveau du coût, est bien plus accessible qu'un GPT-4. On pense en fait qu'il se situe entre les deux, c'est-à-dire que c'est probablement pas encore exactement l'équivalent d'un GPT-4, mais que ça va te coûter beaucoup, beaucoup moins cher à l'inférence, ce qui est leur spécialité.
J'ai une question un peu... Ouais. Mais alors, tu me dis c'est un peu hardcore.
Peut-être que je ne saurais pas.
Est-ce qu'ils expliquent, du coup, comment est-ce qu'ils ont réussi à compresser?
Alors, sur la partie MOE... Enfin,
de passer de 7 milliards... Ouais, pour passer à 7 milliards de paramètres tout en étant... autant efficace ?
Eh bien, la réponse est non.
Oui.
Et ils l'assument totalement. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont open weight, donc c'est-à-dire qu'ils offrent des modèles à la communauté pour qu'on fasse joujou avec, mais ils gardent leur recette secrète. Et clairement, ils l'assument, ils disent non, mais voilà, c'est nous, c'est la manière dont on veut fonctionner. On veut vous donner des super joujoux en ouvert que vous pouvez utiliser. Par contre, on garde nos recettes secrètes pour pas se faire rattraper tout de suite, tu vois.
Ouais.
Donc c'est un peu leur politique. Franchement, moi, si ça leur permet de financer l'entraînement du prochain GPT-4 open source, tous les jours, je signe. Il y a pas de problème. Gardez vos recettes secrètes. Vous partagez-les plus tard, peut-être. Mais
ce qui est fou, c'est qu'ils sont français et du coup, moi, de ce que j'ai lu, ils font tourner leur entraînement sur avec Scaleway, avec l'Euro HPC, le super calculateur européen et tout. Et donc, en fait, ça contribue à créer un écosystème incroyable. Parce qu'en fait, ils sont méga déter.
Non, c'est clair.
Mais alors, pour revenir sur le médium, là, du coup, ils viennent en concurrence frontale avec Anthropic. Parce qu'en gros, Anthropic, leur stratégie, c'est on essaye de faire comme GPT-4, on est un peu moins bien, mais on est moins cher.
C'est ça.
Exactement ce que tu as dit pour ouais, le médium.
À mon avis, encore moins cher.
Mais du coup,
et probablement,
Anthropic, ouais, probablement mieux.
Et probablement mieux. Parce que là, on a parlé un peu de ces benchmarks, etc. Et rapidement après la découverte de ce Mistral médium, il y a pas mal de gens qui ont commencé à faire des threads Twitter où ils font des comparaisons sur des sujets hyper précis entre GPT-4 et Mistral Medium. Et moi, je trouve ces exemples-là qui sont les plus intéressants parce que ce genre de benchmark, c'est un peu flou, mais c'est quand tu vois des vrais problèmes, souvent c'est les problèmes de développeurs, je trouve que c'est ceux qui sont les plus intéressants. Quand tu vois des vraies comparaisons sur une manière d'approcher un problème complexe entre deux IA, que ça devient intéressant. Parce qu'un truc à préciser, c'est que le GPT-4 qu'on voit tout en haut, c'est les versions de l'API. Et il y a pas mal de gens qui commencent à constater, si ça vous intéresse, enfin, je vais recommencer. Il y a pas mal de gens qui commencent à constater que les versions publiques de OpenAI, de ChatGPT, deviennent de plus en plus débiles. Genre qu'ils essayent des trucs qui marchaient il y a encore 6 mois, 1 an, leur demander de générer des scripts et des trucs comme ça, ou à une époque où ça marchait bien. Ils réessayent aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien.
Qu'est-ce que tu entends par version publique ?
C'est-à-dire que les versions accessibles dans ChatGPT, dans l'interface.
Front-end,
exactement. Okay. Et donc tout le monde est un peu perplexe et il y a plein de théories sur pourquoi est-ce que les versions de GPT-4 deviennent moins performantes avec le temps sur les interfaces de ChatGPT. Il y a plein de théories, je ne vais pas rentrer dedans parce que je vais en faire une chronique bientôt qui sortira sur cette même chaîne. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse.
Incroyable. Et ça devrait être dans 2 semaines, a priori.
Oui,
juste après les vacances.
Oui, c'est clair.
De grandes chances.
Et du coup, un exemple frappant que j'ai vu, c'est par exemple un exercice de codage en Python. La demande qui a été formulée à Mixtral d'un côté et à GPT-4, c'était écrire un script qui peut rentrer un fichier CSV complet qui fait 1 milliard de lignes dans une base de données SQL. Pas besoin de comprendre vraiment l'énoncé. Dites-vous juste que c'est un problème de programmation non trivial. Donc c'est pas, en gros, c'est un bon moyen de vérifier si vous avez en face de vous un élève de 3e ou un PhD, quoi. Parce que la bonne réponse, en fait, c'est que tu peux pas simplement faire une boucle sur l'ensemble des entrées du CSV et les rentrer dans une base de données. Il y a aucun système. T'as pas besoin de contexte supplémentaire pour savoir que c'est juste impossible. Il te faut une manière d'approcher le problème plus intelligente où tu fonctionnes avec des batchs, tu fais attention à la gestion de ta mémoire vive, des choses comme ça. Et il fait la démonstration et il montre que d'un côté dans l'interface de ChatGPT, dans la version 4, qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il bullshit des trucs qui ne servent absolument à rien. Son code fonctionne à peu près, mais il est paresseux. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il passe son temps à te dire non mais ça implémente-le toi-même, commentaire. Mmh. Bon ça c'est quand même un peu trop compliqué cette boucle, donc ça demanderait beaucoup plus d'investigation. Mmh. Et tu vois le message, alors on s'est habitué, faut pas faire les blasés, ça reste très stylé, hein. On a des attentes maintenant qui sont hyper élevées, mais globalement tu n'es pas hyper pertinent, tu as besoin de lui reposer des questions en mode non mais vraiment donne-moi le script complet qui répond à l'énoncé, et là il finit par y arriver, preuve qu'il n'est pas con, juste qu'il est devenu paresseux. La même demande posé à Mistral Medium et il te pond une réponse, mais
c'est du caviar.
Il n'y a pas un token en trop, il ne commence pas à te raconter sa vie, etc. C'est to the point. Ça te donne du code qui est certes pas exactement forcément complet, mais où tu as déjà des briques intéressante, à savoir un système de batching. En gros, il a une profondeur, une compréhension dans l'énoncé. Et à la fin, il te donne des recommandations pour aller plus loin, mais qui ne sont pas des recommandations en mode « il est compliqué de faire du développement ». Tu sais, on sait tous à quoi correspond ce genre de texte. C'est des messages vides, c'est des conseils vides. Voilà, c'est... Il n'y a pas d'âme entre guillemets.
On se fait chier.
Et tu compares ça avec les recommandations que te font Mistral. Et là, c'est actionnable. T'as des trucs très, très précis qui sont évoqués, des services, des fonctions dans Python que tu pourrais utiliser, etc. Et alors, c'est un exemple. C'est-à-dire que ça vaut rien. C'est pas une étude approfondie. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même frappant de se dire, au moment même où on a l'impression que GPT-4 est en train de se prendre les pieds dans le tapis et de devenir pas ouf, parce qu'ils ont probablement des soucis de performance, il y a trop de gens qui l'utilisent et tout, au même moment, tu vois une courbe comme ça sur la performance et les capacités de Mistral.
Et même si ça prouve rien, ça participe aussi à la communication autour du modèle et le fait que ça prend de l'ampleur et que ça peut aller encore plus loin. Enfin, ça crée une émulation.
Tout ça pour dire merci Mistral d'avoir créé cette boîte. Merci à eux, ils sont juste trop forts. Suivez-les s'il vous plaît. Suivez cette émission parce que c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'eux, c'est certain. Et on espère vraiment pouvoir les recevoir à nouveau. Et franchement, je vais dire, c'est le genre de boîte qui me rend fier d'être français, tout simplement. Ça a fait rayonner la France bien plus que beaucoup d'autres choses. Donc ça fait très plaisir. Et on croise les doigts, juste, pour qu'il ne se passe pas la même chose que beaucoup d'autres grandes boîtes et belles et beaux industriels. Ouais. On ne citera pas de nom, mais qui ont disparu du giron français. Et que Mistral restera un énorme acteur européen, français. Et voilà, on croise les doigts, parce que c'est quand même une trop belle histoire.
Et moi, j'ai entendu dire qu'en fait, aux États-Unis, ils entendent bien plus parler que nous de Mistral.
Mais paradoxalement, quand tu regardes...
Ouais, de fou.
Il y a des gens qui ont fait des stats sur les téléchargements du lien Magnet pour voir depuis... Tu peux savoir depuis quel pays les IP proviennent, tu vois. Et tu peux comme ça savoir quels sont les pays les plus au taquet pour tester les nouveaux modèles. Et les Français seront là avec les Allemands, les Anglais, des trucs comme ça. Oui, mais clairement, tu vois, les Américains, y a pas le même engouement, quoi. C'est débile. Ah, c'est fou.
Mais il y a quand même une petite communauté de boîtes françaises qui s'est créée. Bon, je pense à Hanging Face qui est devenu un peu américain, mais c'est quand même français à la base. Il y en a d'autres. Moi, j'ai vu des. Alors, ils sont pas au niveau de Mistral. Ils sont pas valorisés comme Mistral, mais il y a Lighton. J'ai vu un truc qui Giscard. C'est essayer de. C'est quoi le truc de Giscard? C'est de. Je sais plus, mais essayer de pas de corriger les IA, mais faire un side travail que les IA ne font pas, mais que eux ils pourraient faire à côté.
Et il y a plein de labos pour le coup de GAFA et tout qui sont hyper forts et qui crache pas dans la soupe, hein, qui participent vachement à l'écosystème. On pense évidemment à Meta, etc.
DeepMind, je pense même, aussi.
Et même en réalité, parce que là on joue la caricature aussi parce que c'est rigolo, mais tous les modèles propriétaires en général sont faits par des chercheurs qui publient. Donc, ils participent en fait à la recherche. Donc, voilà, c'est important. Enfin, moi, ça m'importe personnellement le côté les poids sont accessibles et tout. La réalité, c'est que c'est pas du tout la seule manière de contribuer à la recherche et tout. Et on peut citer Google et Facebook.
Ils publient énormément.
Comme des acteurs, et Amazon, comme des acteurs majeurs de la recherche en IA, en fait.
Et en fait, c'est un secteur relativement jeune où, en fait, tout se passe encore. Chez les scientifiques et dans des papiers de recherche. Ça commence à un peu changer parce que l'industrie s'en empare, mais le papier de Google de 2007 là, sur les Transformers, il a traumatisé plus d'un chercheur en intelligence artificielle. Hein. C'est une pépite, ce truc.
Et ce qui est terrible pendant cette chronique, j'ai raté tous les jeux de mots sur les Mistral
Games. Ah oui, oui.
La mère qui prend l'homme se lève pas.
Moi, j'ai un truc sur... J'ai découvert récemment... Je sais pas pourquoi, je suis tombé sur les annonces de Microsoft Init d'il y a... Il y a quelques semaines, moi, c'était avant le drama OpenAI, là. Et j'ai découvert le concept de SLM, donc de Small Language Model. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui régit un SLM, il faut qu'il soit petit, comment. Mais j'ai appris que Microsoft développait son propre SLM, mais pas OpenAI, vraiment en interne à Microsoft, qui s'appelle Phi-2, je crois. Oui. Je ne l'ai absolument pas vu dans le... Je ne sais pas si c'est comparable avec Mistral, je ne l'ai absolument pas vu dans le classement.
Non, parce que je t'ai dit, c'est vraiment le podium du podium.
Ouais,
tu
ne
peux pas espérer avec moins
mais
de...
C'est fou, c'est Microsoft de...
Mais clairement. Mais moi, voilà. En fait, c'est juste ce que je disais sur
la compétition est super. La compétition est super.
Tu dis Microsoft, quoi.
C'est clair. Ouais, mais comme dit Tiffany, genre c'est la guerre.
Ah, mais c'est fou.
Et c'est juste aussi que ça correspond à c'est pas des poids légers là, tu vois, ce serait des poids super légers, tu vois, c'est ouais. Des enfants à 1 milliard.
Mais c'est ça, je pense que c'est pas comparable.
Mais et donc pour le coup, ça a plein de genre pour de l'IoT, des trucs comme ça qui
est fou.
Ou même un truc sur ton device mais qui est spécialisé en code et qui fait de l'autocomplétion. Il y a plein d'usages, c'est juste que ce podium là ne décrit pas ça.
Dans combien de temps on a un modèle de fondation sur nos téléphones?
Ah non, mais
même qu'il soit petit.
C'est une question de temps, je vous le dis, avant qu'on ait mieux que GPT-4 sur tous nos appareils. C'est vraiment, ça va arriver très très vite.
Ça me termine.
Question importante, comment est-ce qu'on fait pour essayer Mistral et profiter de tout ça? Option numéro 1, vous vous inscrivez sur leur site et vous utilisez l'API, c'est le moyen le plus simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre appareil. Option 2.
Pardon, il y a une liste d'attente, non?
Il y a probablement une liste d'attente. mais il y a pas mal de services qui l'hébergent et qui te donnent accès à une playground. Donc si tu tapes genre Mistral playground, et bah tu vas trouver plusieurs moyens de pouvoir l'essayer. Ou alors tu l'héberges toi-même, c'est ça. Mais justement, option 2, surtout si vous avez un Mac en général, je ne sais pas pourquoi c'est quand même souvent le plus simple, vous pouvez utiliser Studio LM, qui est une des meilleures applis pour, voilà, avec une interface simple, télécharger n'importe quel modèle que vous trouverez sur Hugging Face ou des choses comme ça, et l'essayer au maximum des performances en profitant de toutes les nouveautés sur le GPU, les inférences rapides, tout ça, directement sur votre ordi en local, pour le coup. Donc notamment si vous voulez essayer la deuxième ligne jaune, donc c'est pas Open Hermes, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'ai sur mon ordi, c'est génial. Le nombre de fois que le site d'OpenAI il lag, ou alors je suis dans le train, j'ai pas internet, et je finis par juste utiliser un modèle en local qui fait 5 gigas, j'allais finir en le faisant, mais ça marche. Bon, bref, c'est de la magie noire. Vous pouvez faire ça. Et sinon, c'est déjà en train d'être intégré dans d'autres services. Par exemple, si vous voulez l'utiliser pour du code, il y a une extension pour VS Code qui est déjà dès maintenant est compatible avec Mistral.
Ça va toujours très très vite.
Et qui vous permet d'utiliser ça directement.
À tous les coups, c'est eux qui l'ont fait. Hein.
Possible, c'est possible. Mais c'est même pas sûr parce que je pense que les gens sont tellement au taquet que.
Ouais.
Et en fait, avec la communauté a créé tellement de projets tout autour, un écosystème tellement complet que maintenant ils ont juste entre guillemets à avoir la bonne glue pour intégrer le nouveau modèle.
Ils ont l'air de faire les choses intelligemment sur la façon dont tu peux avoir accès à leur modèle, ouais. Et tout. J'ai l'impression qu'ils sont. Ils sont pas cons, mais ils sont bons pour entraîner des modèles, mais en plus, sur la mise en application, la mise en prod et l'utilisabilité pour les développeurs, j'ai l'impression qu'en plus, ils sont pas bêtes.
Clairement. Ah oui, il y a aussi, donc j'ai parlé de Studio LM, il y a Ollama, donc Ollama, c'est génial. C'est plutôt, donc ça, c'est un outil en command line, mais l'avantage, c'est que c'est un service, c'est-à-dire que ça tourne non-stop sur ton Mac, et en gros, ça peut... Il va pouvoir réveiller un modèle quand tu envoies une inférence sur le serveur local. Donc concrètement, c'est une sorte d'équivalent de Docker pour les modèles de langage en local. C'est-à-dire qu'ils ont une syntaxe pour décrire un modèle, quel est le prompt initial, et ça permet comme ça de se partager très facilement des modèles et d'éviter à ce que chaque nouvelle appli qui fait de l'IA réinvente la roue. Tu vois. Donc en gros, tu t'installes une fois Ollama sur ton Mac et après, d'autres applis vont pouvoir s'interconnecter avec sans avoir à gérer toute la partie télécharger un modèle, le mettre à jour parce qu'il y a eu une mage qui a été publiée, tout ça.
C'est un peu comme Studio LM ou...
C'est pas une interface graphique.
Ok.
Donc tu peux l'utiliser directement en ligne de commande ou ça peut être utilisé par d'autres applis qui vont s'interconnecter avec.
Ah, c'est cool.
Par exemple, si t'as Recast, tu vois, il peut discuter avec Ollama.
C'est bon, tu me l'as vendu.
Bref, ceci est pour une autre.
J'achète aussi.
Non, en vrai, là, tu me l'as vendu parce que je fais passer tellement de trucs par Recast maintenant.
Ouais, mais. Et encore, là, je te l'ai vendu, mais maintenant, si je te dis, ok, mais maintenant, t'as Recast et un LLM qui peuvent parler ensemble, est-ce que peux pas imaginer des.
Si
ce truc est automatisé.
C'était déjà le. Ils ont déjà plus ou moins fait, mais il fallait payer, je crois.
Ouais, c'était un peu chiant. Bref. Je vais
juste
ça dans une autre chronique.
Qui nous dit que Mistral tourne sur Mac M1 Pro 16Go tranquille.
Ah ouais?
Bah, je sais pas. En fait, il a mis Mistral, général, mais il m'a dit Mistral 8X7B. Donc, c'est pas Mistral.
Ouais, c'est celui-là, c'est Mistral, ouais.
Tourne sur mon Mac M1 Pro 16Go tranquille. Sac à dos si t'as des infos.
Je vais essayer ça.
Sac à dos si t'as des.
Bah, non, mais parce que moi, j'ai exactement ce modèle-là, donc je vais clairement essayer.
Ok.
Cool.
Moi, je me disais que c'était intéressant.
C'est dingue.
Ça serait incroyable. Parce que oui, t'as ça en plus, toi.
Ouais. Bref. J'espère en tout cas que je vous ai partagé mon enthousiasme Et que je sais pas si tu suis de, t'as le temps, parce que je sais que t'es pris à mort. Est-ce que t'as le temps de suivre un peu ce qui se passe dans le game?
Si, je regarde carrément. Ouais, bah, je suis obligée. Hein. Mais non, mais c'est ultra cool. Ça va beaucoup trop vite. À chaque fois, moi, c'est marrant parce qu'en plus, là, c'est la dernière. C'est il y a pile poil 2 ans que je suis venue à l'émission en tant qu'invitée.
Mais oui.
Pour la première fois. Et qu'on a parlé de l'IA sur Minecraft.
Mais
et
oui.
J'ai l'impression
que c'était il y a dans
la préhistoire. Et c'est juste incroyable.
On était comme des fous devant GPT-3 qui écrivait 3 lignes de Java.
Parce que je sais pas si on le dit dans la vidéo, mais c'était GPT-3.
Ouais.
J'ai un petit doute parce que c'était tellement inconnu à l'époque. Ouais.
Mais je trouve ça dingue. Et en fait, c'est marrant de se dire là aujourd'hui, c'est la dernière de cette année, de 2023. Oui.
Mais c'est
en
un
fait,
cycle.
Ouais, c'est juste fou la vitesse à laquelle c'est allé. C'est un throwback de. Enfin, c'est juste. Incroyable.
C'est fascinant, c'est clair.
Ouais.
Et s'il y en a qui veulent. Je fais de la promo, mais des coulisses sur ton passage lors de la première underscore avec ces fameux vidéos sur Minecraft. J'ai vu que tu as fait un podcast, j'ai pas encore tout écouté, mais où tu expliques que tu es toi-même étonné de ce que fait ton IA. Et c'est très marrant à regarder. Ça s'appelle Tronche de Tech, il me semble.
Ouais, c'est Tronche de Tech.
Bref, c'est un peu drôle. Parce que tu vois Tiffany en mode.
Si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut la voir parce qu'on a tous été surpris quand il s'est mis à faire ça.
Ouais.
C'est génial.
Mais ce qui est super drôle dans cette vidéo, c'est qu'on est tous les trois, très honnêtement, mais hallucinés de ce qui est en train de se passer. C'était juste. Mais aujourd'hui, on regarde la vidéo, on n'est pas du tout hypé. Tu sais, c'est trop bizarre.
Par contre, c'est vrai qu'elle a mal vieilli, entre guillemets. Parce qu'en fait,
Je pense quand même que si. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'intégration. Hyper bien foutu.
En fait, c'est Minecraft.
Dans le jeu vidéo. On va se la manger, la vague de LLM dans le jeu vidéo.
Ouais.
Mais pour l'instant, ça reste quand même relativement discret, à part dans les jeux indés et tout.
Ouais.
Donc je pense que cette vidéo a quand même un effet waouh, toujours maintenant, je trouve.
Ah, mais si vous la regardez aujourd'hui, il faut la remettre dans son contexte. Quoi.
C'est ça, exactement.
C'était avant ChatGPT.
Par contre, à mon avis, dans 2 ans, quand juste dans GTA 6, tout le monde a une personnalité. ultra deep et tout, bon là effectivement vous allez moins halluciner.
Même le scénario, imagine, il sera évolué.
C'est ça.
Ce que tu fais, tout, juste incroyable quoi. Donc,
je me pose une question parce que mine de rien, nous on a quand même beaucoup plus de temps pour, enfin surtout moi, pour juste scroller Twitter parce que ça vient nourrir des chroniques et tout comme ça. Est-ce que ça te sert un peu de veille aussi les chroniques underscore ou pas du tout?
Ah mais clairement, non mais si, non mais des fois vous parlez de trucs, je peux pas, moi, enfin en fait c'est impossible d'avoir les yeux sur tout.
Bah, c'est sûr, ouais.
Et en fait, quand je viens, moi, j'ai l'impression de découvrir. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je découvre des trucs à chaque fois.
C'est trop bien.
C'est vraiment trop cool. Non. Et puis, en vrai, je suis comme dans les gens, comme les gens dans le chat. Je suis là, wow. Des fois, c'est même pas mon domaine, donc je crois pas et tout. Mais non, c'est super cool.
Trop cool. Bah non, mais
c'est vrai que
on s'en aperçoit pas parce qu'on est. Bah en fait, tu.
Bah juste, on a.
Instinctivement, tu suis tellement un peu ce qui se passe.
Attends, bah c'est notre job.
Tous. Ouais, mais t'as un truc où, avant l'émission, tu te dis, bah, ils vont forcément savoir de quoi je vais parler, tu vois. Oui. Je vais parler de Beeper Mini, bah, c'est évidemment que tout le monde est au courant. Et en fait.
Tout le monde n'est pas en intraveineuse.
Tu as entendu parler de Beeper Mini ou pas?
Non.
C'est fou.
Alors, tout le monde n'est pas en intraveineuse sur les news tech.
Ouais. Il va falloir qu'on prenne.
C'est ça.
Des vacances.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.